Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 5h en temps universel. Human Rights Watch a appelé mercredi les autorités burkinabées à mener une enquête crédible et indépendante sur les morts suspects de 12 personnes en une nuit dans une gendarmerie. Des proches de victimes, dont le député maire de la ville de Dori, dans le nord du Faso, ont dénoncé des exécutions systématiques d'une balle dans la tête. Les forces de l'ordre du Burkina Faso ainsi que des groupes d'autodéfense ont été plusieurs fois, depuis 3 ans, accusés de bavure ou d'exaction, notamment contre des populations peules. 20 personnes ont été tuées et 11 blessées dans une collision entre un minibus et un poids lourd dans le sud du Mali, a annoncé mercredi le ministère des Transports. L'accident est survenu mardi sur la route nationale 5 qui relie la capitale Bamako et la Guinée entre Solabouguda et Narena, selon un communiqué diffusé mercredi. Son bilan est de 20 morts, dont 9 femmes et 11 blessés graves, lesquels ont été évacués vers la capitale Bamako, a précisé le ministère des Transports. Un problème technique et un excès de vitesse du camion sont en cause. Les accidents de la route sont nombreux au Mali, où le mauvais état des axes routiers a été par le passé source de tensions sociales. Le gouvernement sénégalais a approuvé mercredi le recours à la surveillance électronique comme substitut possible à la détention. Le Sénégal évoquait l'introduction du bracelet électronique en décembre 2018 déjà pour décongestionner les prisons. Les chefs de plusieurs agences de l'ONU ont appelé la semaine passée les gouvernements à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des détenus contre le coronavirus. Les défenseurs des droits humains dénoncent régulièrement les conditions de détention et la surpopulation dans les prisons sénégalaises, le recours quasiment systématique au placement sous mandat de dépôt et la durée des détentions provisoires. Les Burundais ont voté mercredi lors d'un scrutin présidentiel qui s'est déroulé dans un contexte tendu, l'opposition ayant dénoncé les pressions exercées sur ses militants et sur les électeurs, avec en toile de fond la pandémie du Covid-19. La présidentielle burundaise, dont les résultats sont attendus en début de semaine prochaine, opposait notamment le dauphin du président Nkurunziza, candidat du parti CNDD-FDD, le général Évariste Ndayishimiye, 52 ans, au chef de l'opposition et président du Conseil national pour la liberté, CNL, Agathon Rwasa, lui âgé de 56 ans. La commission électorale burundaise a estimé qu'il y avait eu une forte participation, sans toutefois pouvoir encore fournir de chiffres. Hors du continent, le président américain Donald Trump souhaite faire d'un sommet du G7 en personne le symbole de la normalisation qu'il appelle de ses voeux, malgré la progression de l'épidémie de coronavirus dans certains pays comme le Brésil. Le président américain a évoqué mercredi la possibilité de rassembler les dirigeants du G7 en juin à Camp David et non pas par visioconférence comme cela avait été décidé en raison du coronavirus. Les autres membres du G7 entament eux aussi leur retour. Ce serait un symbole formidable pour tout le monde. Normalisation a suité le président américain. Les réactions des dirigeants du G7 ont été plutôt prudentes. Les États-Unis ont refusé mercredi à l'ONU l'adoption d'un communiqué rédigé par la Russie qui visait à dénoncer le recours à des mercenaires au Venezuela lors d'une réunion du Conseil de sécurité organisée à la demande de Moscou. Mais l'ambassadrice américaine Kelly Craft l'a refusé, rejetant des accusations fantasques contre les États-Unis, alors que la Russie, comme Cuba, selon elle, envoie régulièrement des officiers et des mercenaires au Venezuela. Comme notamment une bonne partie de l'Europe, les États-Unis soutiennent l'opposant vénézuélien Juan Guaido en le considérant comme le seul à même de diriger le pays. Et puis l'Afghanistan, le chef des talibans a confirmé mercredi que les rebelles afghans entendaient respecter l'accord historique avec les États-Unis, qui ont toutefois réclamé une réduction de la violence et l'accélération du processus de paix avec Kaboul. Aïbatullah Akhundzada, arrivé à la tête des insurgés en 2016, a aussi appelé l'autre camp à respecter ses engagements et à ne pas laisser passer cette occasion cruciale. Ces nouvelles déclarations positives interviennent au moment où l'émissaire des États-Unis, Zalmay Khalilzad, se trouvait justement à Doha, au Qatar, pour rencontrer les talibans. Jean-Roger Billon, à ce micro, le prochain journal dans 55 minutes. Vous retrouverez Idrissa Seydoudia dans le cadre du magazine Le Monde Aujourd'hui.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.